Michel Rocard, pourquoi faire cet appel aujourd'hui?
Aujourd'hui, faut bien le faire à un moment. Nous le faisons aujourd'hui parce que, il est mûr. Un travail interne qui est un travail de 2 ou 3 ans à rassembler des idées, des concepts, etc. Il y avait urgence. Aujourd'hui, nos bottes signes particuliers, ça aurait pu être il y a 3 mois ou dans 3 mois, ça, c'est pas significatif. Ce qui est très significatif, c'est que le monde va mal, mais les opinions s'en rendent compte de plus en plus. Et le monde va mal parce qu'on n'a plus la capacité de décider de grandes batailles collectives. Le point le plus visible, c'est le climat, puisque les 3 conférences successives de Copenhague, de Cancun et de Durban ont échoué complètement. Mais c'est pas meilleur sur le plan de la finance. Le premier G20 avait donné de bonnes impulsions. Les deuxièmes et troisièmes n'ont rien fait, n'ont rien produit en matière de finances par rapport à la crise de 2008, où il y a eu la faillite de Lehman Brothers, bien d'autres faillites. On ne retient que la plus grosse. On n'a pas corrigé les déséquilibres et on n'a pas pris de mesures de précaution pour limiter la baisse des liquidités spéculatives et essayer de parer à une éventuelle explosion. On n'a rien fait, enfin, on n'en a pas fait assez. Donc tout ça est grave et c'est vrai que ça pose le problème de savoir comment améliorer les moyens de se gouverner du monde entier. Car aujourd'hui, l'instrument principal, ce sont des conférences dites de consensus. Viennent les nations invitées, 120, 130, 140. On est 193 nations à l'ONU, c'est beaucoup. Et il faut travailler à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y a une décision quand tout le monde est d'accord. Évidemment, ça ne marche jamais. Et c'est ça qui explique qu'au cours de notre 21e siècle, on entre dans sa 12e année, à ce jeune siècle, tout ce que le monde a essayé de négocier a échoué. Tout. Sur le climat, sur la finance. On n'a même pas discuté d'une relance de la croissance pour lutter contre chômage et précarité, qui sont un fléau mondial de tous les pays développés aujourd'hui. La grande idée des deux présidents Obama et Medvedev, l'américain et le russe, sur une négociation visant à supprimer l'armement nucléaire. Il avait dit tous les deux, ils n'avaient pas donné un terme, enfin ils indiquaient une piste. Rien ne s'est passé, mais rien du tout, à la conférence quinquennale du traité de non-prolifération à New York l'an dernier. Or c'était là que ça aurait dû sortir. Rien ne se passe, vous dis-je. Pourquoi? Parce qu'il faut l'unanimité sur toutes ces choses.
Vous remettez en question l'ONU alors?
Ben, moi, je voudrais revenir à l'esprit de la Charte des Nations Unies quand ils l'ont écrite, après la guerre, après une guerre mondiale terrifiante qui a fait 40, 45 ou 50 millions de morts du fait de guerre, sans parler en plus du goulag, hein, par la seule guerre. Les gens qui ont écrit la Charte des Nations Unies savaient que le consensus, c'est pas une manière de décider. Et aussi bien à l'Assemblée générale des Nations Unies qu'au Conseil de sécurité, on vote. Alors ils avaient tellement peur des résultats du vote qu'il y a des veto pour protéger les puissances qui soient assez grandes pour avoir le droit de se protéger.
Sauf à l'Assemblée générale.
À l'Assemblée générale, il n'y a pas de veto. Il n'y a de veto qu'au Conseil de sécurité. C'est pour ça que je plaide qu'il faut maintenant remettre l'Assemblée générale dans le circuit dont elle a été exclue. La plupart des grands États n'acceptent d'aller parler de choses sérieuses que si c'est pas dans le cadre des procédures de l'ONU et si c'est un consensus.
Alors, deux choses. On remarque quand même, vous dites échec du G20, oui, mais aussi, généralement et très souvent, de grosses manifestations populaires aussi devant le G20 qui mettent bien les États devant leurs responsabilités.
Oui, c'est vrai, mais ça suffit pas toujours à provoquer des décisions. En fait, quand vous évoquez les manifestations de protestation contre des décisions collectives, c'est surtout sur les affaires de crise financière. Vous pensez à l'Espagne, vous pensez à la Grèce, etc. Là, nous sommes devant deux choses à la fois. La difficulté d'exécuter des décisions et la nature de ces décisions. Parce que quand les nations se rencontrent, elles cultivent un académisme, elles cultivent une fidélité à des visions reçues, dont par exemple l'idée qu'il faut d'abord respecter les marchés, l'idée que comme l'équilibre des marchés est optimal, il ne faut pas que les États s'en mêlent, et l'idée au total qu'il faut payer sa dette pour être respecté par les marchés. Nous sommes arrivés à un niveau d'endettement, c'est stupide, je le regrette beaucoup, c'est de la folie, un niveau d'endettement qui n'est plus remboursable.
Notamment chez les Américains.
Notamment chez les Américains. Alors, chez les Américains, on ne sait pas comment on fera. Pour le moment, ils ne subissent aucune espèce de contrainte, alors qu'ils ont le plus extraordinaire déficit budgétaire du monde. Mais les malheureux qui peuvent plus payer les pauvres Grecs, qui sont beaucoup moins endettés que le Japon, par exemple.
Mais c'est une dette toute petite, la dette grecque.
C'est une dette, en effet, assez petite, mais lourde pour le pays. Et le problème de savoir si on n'accepte pas une banqueroute, c'est-à-dire une stérilisation de cette dette, un abandon de cette dette. C'est à ça qu'il faudra arriver, parce que pour les grosses dettes, et notamment l'américaine, tout le monde sait qu'on paiera jamais. Et donc je prêche qu'il faut que le monde soit capable d'organiser une espèce de banqueroute collective bien négociée et prudemment délimitée. Il ne faut pas en faire trop, mais on n'arrivera pas sans supprimer une partie de la dette. Parce que sinon, ce qui se passe en Grèce, c'est qu'on oblige la Grèce à réduire son produit national par habitant d'un bon 20-25% dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Aucun gouvernement ne peut se faire élire là-dessus. Aucun pouvoir ne peut tenir. C'est la démocratie qui va être en fuite, enfin.
Alors, vous mettez en cause ces institutions internationales, mais est-ce qu'on peut dire aussi que les dirigeants n'ont pas une part de responsabilité ?
Beaucoup de dirigeants privilégient les instincts de leur pays à court terme par rapport à tout intérêt général. C'est une part de responsabilité. Mais on le dit tout le temps, tout le monde dit ça. Et on est tous d'accord, bien entendu. Reste que moi, j'ajoute l'incrimination du processus de décision. Là-dedans, si on votait à la majorité, les petits pays les plus victimes finiraient par se faire entendre.
Maintenant, autre chose aussi, vous dites, le point clé d'ailleurs de cet appel qui fait beaucoup réfléchir, c'est l'abandon de la souveraineté nationale.
Ben, nous ne parlons que de ça depuis 5 minutes. Effectivement, la souveraineté nationale, c'est notre reconnaissance, c'est notre façon d'être identifié, c'est notre joie de vivre aussi, d'une certaine façon. On est tous plutôt assez fiers et on a des cocoricos nationaux dans toutes les têtes. Et c'est vrai que c'est par la souveraineté nationale que se sont reliés l'idée de règles protectrices pour des gens, l'idée d'une force pour faire vérifier ces règles, et l'idée que l'élaboration de ces règles doit répondre à des conditions de surveillance correctes. Ça s'appelle la civilisation, c'est un grand nom, et la souveraineté nationale l'a permise. Mais maintenant, nous arrivons à un monde éclaté. Regardez cette tendance bizarre. Il y avait 45 signataires à la Charte des Nations Unies quand on l'a inventée, donc 45 membres des Nations Unies. On est 193 maintenant, dont 50 au moins 1 million d'habitants. Le monde ne peut pas travailler comme ça. Il faut maintenant avouer, reconnaître que la souveraineté nationale a ses limites et que son respect absolu devient contre-productif parce qu'il empêche de prendre des décisions sur le réchauffement climatique, sur la finance, etc.
Alors, que faire, le fameux que faire, mais quels sont les éléments concrets que vous donnez comme outils ?
Attention au monde concret, nous sommes dans une affaire mondiale et une affaire d'idées et de traités, d'écriture. Est-ce que c'est concret, une écriture ou un traité ? Je vous laisse le soin de savoir. Bon. Ce que nous pensons en effet, c'est qu'il faut arriver à un accord international qui reconnaisse notre interdépendance. Et du fait de l'interdépendance de toutes les nations membres présentes sur la planète, membres des Nations Unies, le concept de co-responsabilité. Le concret, c'est qu'il faut le reconnaître et l'écrire, et en faire un traité. Et au nom de cette co-responsabilité, accepter des mécanismes de décision où la majorité gouverne.
On ne va pas aller vers des droits d'ingérence.
Si nous arrivons à un mécanisme capable de prendre des décisions à la majorité, pas l'unanimité, et des décisions obligatoires, ça sera de l'ingérence. La définition de l'ingérence est même ça.
Oui, mais est-ce qu'on va tomber dans les mêmes travers que la fameuse ingérence humanitaire qui a montré que finalement elle protège certains intérêts et pas d'autres ?
Jamais dans l'histoire il n'est admis de critiquer un principe au nom de sa mauvaise application. Et ça recommencera avec une ingérence plus générale au nom de la paix ou de la guerre et pas seulement de l'humanitaire.
Vous allez prochainement porter cet appel aux Nations Unies et également quand il y aura la grande conférence de Rio prochainement, vous allez également être présent ?
Je ne sais pas si je serai présent. De toute façon, je ne suis pas dans la majorité de mon gouvernement. Je ne représenterai pas. Je n'ai pas vocation à représenter la France. Et c'est une conférence de gouvernants. C'est pas une conférence de spectateurs ou d'ONG.
Mais il y a quand même un grand forum autour et on se fait entendre.
Ça, c'est autre chose. Là, on n'a pas encore décidé. Ça dépend un peu comment il sera structuré. C'est pas impossible. Et puis j'ai des démangeaisons. Mais enfin, je veux pas y aller comme spectateur seulement.
Voilà, alors la question qu'on a envie de vous dire aussi, comment êtes-vous arrivé à cette réflexion, à trouver ce texte finalement? C'est une réunion d'intellectuels, comment avez-vous créé ce groupe?
Non, c'est pas une réunion d'intellectuels, c'est plutôt une réunion de praticiens. Enfin, nous sommes au Collegium une soixantaine de signataires de sa déclaration initiale, à peu près moitié-moitié, pas tout à fait. Une des moitiés, ce sont des personnes, hommes ou femmes, il y a quelques femmes, ayant eu une grande expérience politique. Chef d'État, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, etc. À peu près la moitié, c'est-à-dire des gens qui ont appris le monde, si j'ose dire. Quand on devient chef d'État ou Premier ministre, on le devient chez soi, sur la base des problèmes nationaux. Et c'est quand on exerce qu'on rencontre le monde. Et c'est quand on a l'expérience acquise qu'on est renvoyé à d'autres fonctions. Alors, le Collegium est un rassemblement d'un certain nombre de gens qui ont gardé cet intérêt, cette capacité et leurs compétences. Et l'autre moitié, ce sont des philosophes, des économistes, des écrivains, des penseurs. Il y a dans Joseph Stiglitz, Pierre-René Passet, Edgar Morin, le philosophe allemand Peter Sloterdijk. Ce rassemblement d'expériences avec le caractère extrêmement dense et pointu du savoir de notre parti intellectuel permet de conduire des réflexions assez sûres quand même.
Quel est le calendrier maintenant avec ce texte d'être déposé aux Nations Unies et après?
Ben après, on va voir. Le problème maintenant, il y en a pour 10 ou 15 ans, hein, on n'a pas de calendrier très soudain. C'est un nombre suffisant de gouvernements. Ça commencera par des nations moyennes. Les très grandes vont pas se mouiller là-dedans au début. Et c'est d'ailleurs le mécanisme d'entraînement qu'il faudra créer. Il faut trouver quelques nations désireuses de se battre pour cette cause.
Vous pensez à qui? En tout cas pas à la France. En tout cas pas avec ce gouvernement.
Que la France, dans son histoire, a une vocation qu'elle a montrée avec l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle a montrée quand De Gaulle a fait le fameux discours de Phnom Penh, qui était encore un discours dont on se souvient. Et la manière aussi, la France est parmi les anciens colonisateurs, le pays qui a peut-être les relations les moins mauvaises avec ses anciennes colonies. Ça veut dire quelque chose, tout de même. Et au milieu de tout ça, donc, la France devrait et pourrait. Je ne pense pas qu'elle doive être leader dans une pareille recherche, parce que nous sommes un pays nucléaire. C'était une militaire, je pense. Et donc un pays objet d'une certaine suspicion, crainte de la part des autres. Il faut que ce soit des non-nucléaires qui commencent. Mais le mouvement devra prendre le monde entier, il faut bien qu'on l'accepte, qu'on l'adopte, cette charte de l'interdépendance.
Est-ce que vous avez déjà fait un lobbying, par exemple en France, pour faire adopter ce genre d'idée?
Pour tout vous dire, c'est aujourd'hui, ici on a choisi Genève parce que c'est un établissement des Nations Unies, le jour de lancement du projet. Alors on commence à peine, poussez pas trop aux grands-mères dans les orties.
On a campagne électorale côté français, comment est-ce que vous voyez cette campagne électorale maintenant, avec la distance?
Je l'ai écrit récemment dans un bouquin, un petit peu inquiet de voir les Français prendre plaisir à ne pas parler des choses qui font mal. Le réchauffement climatique, les menaces financières, etc. Tout ça parce qu'elles sont extérieures à chez nous. Mais du coup, ça donne à la campagne électorale un caractère un peu bizarre. Nous nous faisons plaisir avec la sécurité sociale, l'immigration, l'éducation nationale, c'est toutes choses fort importantes. Mais il y a des dangers plus grands qui menacent, de manière plus urgente. Et eux sont pas dans le débat.
Pourtant, vous dites pourtant que dans votre appel, le chômage est important, ça peut être une menace aussi pour la sécurité internationale, donc c'est bien un sujet d'actualité. Parce que ça crée justement d'énormes problèmes, et c'est bien un sujet électoral.
Oh, les mots n'importe où. La menace pour la sécurité internationale, c'est d'abord le réchauffement climatique, et c'est peut-être une explosion financière avaleuse. Le chômage est à évolution lente. C'est une constante, c'est une souffrance du monde, et c'est notamment une souffrance aujourd'hui du monde des pays développés. Surtout que, il faut compléter le mot, il y a plus gros que le chômage, il y a la précarité, qui est un désastre social au moins aussi lourd à porter personnellement, et qui concerne davantage de monde que le chômage, une fois et demie à peu près, dans les pays développés. Mais ça provoque des drames pour le moment internes à chaque nation. C'est le système économique et son évolution qui ont cassé la croissance mondiale et qui provoquent chômage et précarité. Mais pour le moment, le traitement reste national, et ça, c'est à faible incidence sur les relations internationales pour le moment. Ça peut s'aggraver.
C'est bien ce qui est commun aujourd'hui dans toute l'Europe.
Toute l'Europe est dans le même bain de transformation du capitalisme efficace, heureux et au fond performant, enfin, des années 45 à 75, en un capitalisme dominé par la finance, qui vide la spéculation, qui n'investit plus guère, et qui à croissance très ralentie, accepte un chômage et une précarité absolument massive. Ça, c'est vrai que ça se passe dans toute l'Europe. La sous-variante, c'est qu'il y a plus ou moins de chômage en plus, et plus ou moins de déséquilibre budgétaire. Mais c'est une sous-variante. L'Allemagne a plus d'un million et demi de chômeurs de plus que nous.
Dernière question, Michel Rocard. Vous avez un mandat actuellement, vous occupez, je crois, des pingouins, comme on dit.
Ah oui, d'ambassadeur. D'ambassadeur de France pour les négociations internationales concernant les régions polaires. Alors ça, c'est autre chose. Le problème, c'est que le réchauffement climatique change complètement la nature de la relation de l'humanité avec les régions polaires. Avant, pendant 6000 ans, on n'y allait pas du tout, tout simplement. Ça ne posait aucun problème à personne. Maintenant, dans l'Arctique, on va faire de la grande circulation, faire passer le commerce mondial, faire de la pêche, faire du tourisme, accélérer la recherche scientifique et surtout forer du pétrole. L'Arctique est un deuxième Moyen-Orient, du pétrole et du gaz. Or, il n'y a pas de règles communes. Nous sommes partis sur l'idée que n'importe qui fait n'importe quoi, et s'agissant de pétrole, ça ouvre lieu à des conflits de souveraineté territoriale. Donc ça va pas bien. Et j'ai mission de contribuer à ces négociations. On considère que tous les peuples premiers du Grand Nord font 400 000 personnes à peu près, dont moins de la moitié d'Inuits. Alors les autres sont en Sibérie en effet, mais ça fait en Sibérie entre 150 et 200 000 personnes, pas plus. Mais ils vivent un drame, c'est que quand le sol gelé, on l'appelle pergélisol en français ou permafrost en anglais, ouais. Quand le sol gelé sur lequel ils ont leur tente ou leur hutte ou leur maison dégèle, le plus souvent, c'est de l'argile. Les maisons s'enfoncent et leurs conditions de vie disparaissent. Nous avons donc déjà à l'intérieur de la Russie et à l'intérieur du Canada, plus en Russie, une ou deux dizaines de milliers de réfugiés climatiques. Problème nouveau, il est interne à la seule Russie pour le moment, reste que c'est lourd et grave. Mais c'est pas encore un objet de négociation internationale puisque ils n'ont pas débordé les frontières.
Et vous allez également vous intéresser à l'Antarctique?
Alors, bien entendu, elle est dans ma mission, mais en Antarctique, il y a eu deux miracles. Le premier est un traité de 1959 qui déclare enregistrer les revendications territoriales, qui en interdit la matérialisation. Pas de barbelé, pas de guichet, pas de passeport, pas de contrôle. Bon. Donc les rend un peu désuètes et permet à tout pays de s'installer pour des stations scientifiques où il veut. À la condition de critères techniques, de sérieux. Il y a un comité là-dessus. Mais ce ne sont pas des critères de nationalité qui peuvent choisir l'emplacement des stations de recherche du monde entier. Il y a 70 ou 75 stations de recherche autour de l'Antarctique. Et le deuxième miracle, c'est son protocole. Ce sont des coups réussis de la diplomatie mondiale au temps où elle en réussissait quelques-uns. Elle me rate tout depuis le 21e siècle. Mais en 1991, on a signé à Madrid le troisième protocole complémentaire au traité dont je viens de parler, qui lui déclare l'Antarctique terre de science et réserve naturelle, et on interdit l'utilisation pour toute exploitation pétrolière, gazière ou minière.
Et c'est respecté.
Ah oui. Oh, oui, oui. On peut pas se permettre, ça se voit. Et la mise au pilori. Le traité, ni le protocole d'ailleurs, non de disposition d'exécution contraignante, mais la mise au pilori, le refus de coopérer ensuite, même pour de la logistique pour y aller, est trop grave. Non, non, pour le moment, le traité est pas mal. En Antarctique, ça marche pas mal. Le drame, il est en Arctique.
Et là, il y a aussi le problème de la fonte des glaces.
Pas aussi, c'est la fonte des glaces qui fait tout le reste, qui fait tous les autres problèmes. Ça va à toute allure, et c'est... mais on ne pourrait limiter la fonte des glaces qu'à la condition de ralentir l'effet de serre, et ça, ça ne se passe pas en Arctique, ça se passe dans le modèle industriel, dans les zones développées.
Qu'est-ce que vous faites concrètement, à part les visites dans le Grand Nord ?
Les visites dans le Grand Nord, c'est pour comprendre plus. Concrètement, je passe mon temps à rencontrer des diplomates des autres pays intéressés ou compétents. Bien entendu, en priorité, ceux des riverains.
Vous êtes devenu l'ambassadeur qui venait du froid.
Voilà, si vous voulez.